Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Aubé, entraîneur surtout pour Tib Army.
Yes, salut.
Merci d'être là.
Yeah, fait plaisir.
J'aimerais ça que tu nous expliques un peu ton background dans le monde d'entraînement, de où tu es parti pour te rendre de ce côté-là.
Moi, ça fait, je dirais que ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis pas mal dans le monde de l'entraînement. Ça a commencé au début. J'étais comme tout le monde, je commençais à m'entraîner dans un gym, puis je commençais à faire du bodybuilding un peu, puis tout le kit. Puis le vrai début, en fait, j'ai toujours été un gars qui était très autodidacte. Fait que j'ai toujours lu bien gros là-dessus, puis tout. Fait que je rentrais dans un gym, je testais les programmes, je lisais le pourquoi du pourquoi, j'essayais d'en apprendre le plus possible. Mais j'avais jamais vraiment pensé à faire une carrière. Puis, je m'entraînais, quand j'ai déménagé à Lévis, à Québec, je m'entraînais dans un gym. Puis, à un moment donné, Christian Thibodeau est arrivé là. Il est arrivé là pour placer son bureau là. Il arrivait de Saint-Louis, autrement dit. Il est arrivé dans le gym, puis il a dit, moi, je m'ouvre un bureau ici, là, finalement. Fait que ce qui est arrivé, c'est que moi, je le connaissais déjà. En fait, je le connaissais pas mais de personne, mais je le suivais déjà. À l'époque des forums, ça fait pas 50 ans, mais c'est ça. Je me rappelle, je le suivais sur, je me rappelle plus le nom du site, Iron Mag, je pense, quelque chose de même. Puis j'aimais bien son thinking concernant l'entraînement. Je trouvais que ça fitait vraiment avec ce que moi j'avais comme vision de l'entraînement. Fait qu'on s'est mis à jaser, puis on s'est bien entendu, puis tu te le quittes, puis... À un moment donné, il m'a dit, Krim, pourquoi tu fais pas une carrière là-dedans? Ben, honnêtement, j'y avais jamais pensé. T'sais. Moi, dans ma tête, un coach, là, c'était un sideline, genre, puis tu fais pas bien d'argent avec ça. T'sais. Fait que, non, finalement, je me suis mis à travailler pour Chris en premier. C'est lui qui m'a engagé, puis j'ai commencé à travailler pour lui. J'ai commencé à faire mon nom là-dedans tranquillement, pas vite. Puis, suivi les formations, essayé de voir. Mais tu sais, j'ai pas été à l'université, j'ai pas fait nécessairement de grosse pédagogie là-dedans. Mais je me suis bien gros investi au niveau des formations, aller chercher beaucoup, beaucoup de matériel. Je pourrais même pas te nommer le nombre de livres que j'ai pu lire là-dessus. Mais bref, puis j'ai expérimenté beaucoup. Puis à un moment donné, ben c'est ça, à force d'entraîner des clients, c'est l'expérience qui est rentrée en ligne de compte. Puis ça a pas tant pris de temps. Je me rappelle, ma première année en tant que coach, là, au bout de 6 mois, là, j'étais full book. Là. Là, je me disais, OK, il y a moyen de faire sa vie là-dedans. Fait que là, je me suis comme investi à 100%. Puis ça a commencé comme ça. Là. Puis depuis, ben évidemment, il y a eu plusieurs projets que j'ai fait à gauche, à droite. J'ai fait de la compétition. Après ça, ben Chris, éventuellement, il m'avait parlé. Bon, je partirais mon brand. Puis tout ça. Fait que là, c'est la naissance de Tib Army qui a commencé. Puis à ce moment-là, au début... Ça, on a commencé, je ne m'attendais pas à ce que ça devienne ce que c'est aujourd'hui, mais on a commencé, il y avait Alex Babin, Maylin, Karim, Chris et moi. Puis évidemment, il y a tout un team derrière aussi qui gère bien d'autres affaires, mais c'est vraiment là que je dirais que sur Internet, on s'est attaqué, puis ça a comme on a comme pris une place un peu plus worldwide, même si Chris était déjà très connu par T-Nation, tout ça, il avait déjà était très connu par là. Il reste que nous autres, simples mortels, on avait une moins grande visibilité. Puis Tib Army a vraiment permis d'amener cette visibilité-là à grande échelle. Fait que je dirais que bon, ça a vraiment passé par là aujourd'hui, ce qui fait que je me considère chanceux d'être au poste que je suis, puis d'être au sein de cette équipe-là. Mais ça a vraiment été... J'ai pas d'élément déclencheur particulier. Tu sais, les années ont passé, puis à un moment donné, tu travailles toujours dans le même objectif. Puis là, tu réalises 15 ans plus tard, tu fais comme, OK, tu sais, ça va bien finalement. Ouais, ça marche bien.
Et là, maintenant, tu t'occupes de la programmation, du suivi, tout ce qu'il y a en ligne avec
Tib Army. Oui, exact. Le gros du matériel en ligne qu'on peut trouver pour Tib Army. Je vais aussi fournir du matériel au niveau du blog, à titre d'exemple. Beaucoup au niveau de la nutrition, supplément, tous les protocoles qu'on va publier ou qu'on va vendre, c'est beaucoup moi qui va s'en occuper. Mais évidemment, c'est un travail d'équipe, on s'entend. T'sais, tout le monde apporte son grain de sel. Puis évidemment, si Chris sort un concept ou moi je sors un concept, ben à deux, le but, ça va être de l'extrapoler. On va vraiment tirer toutes les ficelles qu'on peut pour en faire quelque chose de fonctionnel. Fait que c'est vraiment un travail de team en bout de ligne.
Au niveau de la nutrition, de quelle façon tu fonctionnes? As-tu je sais pas, un type que tu fonctionnes ou tu fonctionnes avec le neurotyping? C'est quoi ton approche?
J'ai toujours l'approche qui fonctionne, idéalement. Ouais, c'est ça, l'approche réponse. Qui fonctionne, c'est une bonne réponse. Non, je vais me saucer un peu. C'est vraiment pas le bon mot à dire en ce moment. Surtout pas d'un truc d'entraînement. Je vais dire mettre le pied à l'eau.
Ah, OK.
moi, en fait, tu sais, il y a beaucoup mettons, de gens dans le milieu d'entraînement qui vont être stickés à un style particulier. Mm-hmm. Mettons, il y en a qui vont être keto, il y en a qui sont plus low fat, il y en a qui, tu sais, paléo, aussi, pis ça. Je suis pas un fanatique de ces concepts-là. Dans le fond, moi, ce que je vais aimer, c'est vraiment d'adapter l'alimentation en fonction de la personne. Puis ce qui est arrivé avec le neurotyping, c'est que Chris est arrivé avec des programmes d'entraînement qui sont adapté au profil psychologique de la personne. On s'entend que dans l'entraînement, oui, c'est physiologique, c'est le physique qui réagit, mais à la base, ce qui va te driver, c'est ton psychologique, ce qui va te motiver, ce qui va te pousser à vouloir quelque chose, ça vient du psychologique. Puis je me disais qu'il y aurait sûrement moyen d'influencer la même affaire, mais avec la nutrition. T'sais. Fait qu'en faisant des recherches, puis en travaillant dans ce sens-là, maintenant, j'utilise beaucoup cette approche-là. Donc, évidemment, le neurotype, c'est vraiment en fonction, la nutrition du neurotype, les suppléments neurotypes, c'est vraiment en fonction du profil psychologique de la personne. Donc, donner un exemple rapide, on a 5 grands profils qu'on a déterminés, qui sont les mêmes que pour l'entraînement. Donc, pour ceux qui connaissent déjà le neurotyping, mais côté entraînement, c'est la même chose côté nutrition. C'est les mêmes profils. C'est juste que, évidemment, l'alimentation est adaptée en fonction des besoins en neurotransmetteurs. Qu'est-ce qui va concevoir, qu'est-ce qui va fabriquer des neurotransmetteurs? Ben, c'est ce que tu manges. Ça va être des acides aminés, ça va être des cofacteurs comme des vitamines, des minéraux qui vont servir d'enzymes, à fabriquer des enzymes pour transformer ce que tu vas manger en neurotransmetteurs. Donc, c'est vraiment en fonction de ça. Un exemple rapide, quelqu'un qui est un type 1A, qui est très sensible à la dopamine, qui a besoin de fabriquer de la dopamine, un type 1A, un B, ben ça va être quelqu'un qui va être très, très fort au niveau, dans sa nutrition, on va vraiment manger beaucoup de viande, beaucoup de protéines animales. Pourquoi? Parce que c'est riche en tyrosine. La tyrosine fabrique la dopamine, c'est le précurseur. Donc, à partir de là c'est très simple, c'est plus complexe que ça si vous lisez, mais mettons qu'on part de là, ben on peut se dire qu'un type 1A, un B, c'est quelqu'un qui va manger, exemple, du meat and nuts, du low carb, plus protéiné, un peu à la Charles Poliquin, dans ce style-là, qui va avoir des carbs placés vraiment à des moments précis. Donc, ils vont être ciblés en fonction soit pour réduire le cortisol, soit pour augmenter la sérotonine dans la soirée. Donc, ça, c'est une façon de fonctionner. Tandis que plus on s'en va dans le spectrum vers le type 3, on va avoir des individus avec un niveau de cortisol plus élevé, avec un niveau d'anxiété plus élevé. Souvent, un niveau de cortisol plus élevé, un niveau de testostérone plus basse. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va essayer de faire par l'alimentation, c'est de limiter cette élévation du cortisol-là. On va avoir une alimentation qui est plus à base de glucides. Donc, le spectrum part de type 1A, très bas en glucides, très élevé en protéines, vers le type 3, très bas en protéines et très élevé en glucides. En étant très élevé en glucides, on est très bas en gras aussi, évidemment, parce que les deux ensemble, ça se mixe mal un peu. Donc, à ce moment-là, on va mitiger un peu le cortisol, le release de cortisol. C'est ce que la nutrition en neurotyping, c'est ce qu'on va appliquer, dans le fond. Puis évidemment, au travers de ça, selon la manière que le client réagit, on va adapter. Selon le background nutritionnel, on va adapter aussi. C'est ce que j'utilise pas mal. Au travers d'un autre système qui va être le calorie cycling, on peut dire. Ça, c'est de quoi que je crois beaucoup. On en a parlé tantôt un peu avec Chris. Adapter la nutrition en fonction du type de training que tu vas faire. Ça, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Donc, je prends vraiment un client. Mon but, c'est vraiment d'évaluer c'est quoi son... comment je pourrais dire? Qu'est-ce qu'il fait au niveau de son entraînement? C'est quoi ses objectifs? C'est quoi ses buts? Et au lieu d'utiliser juste une formule. Fait que des fois, je peux avoir 2-3 formules dans le même plan. T'sais, une formule pour ses journées de high intensity, une formule pour ses journées d'accumulation plus bodybuilding, une journée différente pour ses energy systems, ces affaires-là. Fait que tu sais, je m'adapte vraiment en fonction de ça. Puis je pense qu'en général, la nutrition devrait se diriger vers là au lieu d'avoir juste un plan. Puis tu sais, OK, go with it, là. Fais ce plan-là, tu sais, ça peut fonctionner, mais c'est juste que c'est très limité dans les effets parce que t'as évidemment ton corps s'adapte plus vite à ça. Fait que c'est dans cette direction-là. Côté nutrition, je suis vraiment C'est vraiment l'adaptation au client. Mm-hmm. Puis le neurotyping, évidemment.
Puis au niveau du neurotyping, admettons, on a parlé de viande qui joue sur la dopamine. Tu peux-tu nous donner des exemples un peu des aliments qui peuvent avoir un effet quand même majeur sur les neurotransmetteurs?
Oui. Bien, à la base, il faut savoir souvent, lorsqu'on analyse, là, pour démystifier le neurotyping, autrement dit en nutrition, lorsqu'on analyse l'alimentation, il faut savoir c'est quoi le précurseur du neurotransmetteur qu'on cherche. Mmh. On va donner deux neurotransmetteurs majeurs qui ont un impact sur la motivation, la détermination et l'anxiété, la récupération, le stress. Ça va être la dopamine puis la sérotonine. Le ratio de dopamine et de sérotonine est très, très important. C'est ce qui va même avoir un impact sur comment tu vas visualiser ta charge. Je te donne un exemple. Tu as une sérotonine très basse, une dopamine très élevée. En ayant la sérotonine basse, ton facteur d'anxiété peut augmenter facilement. Tu as une dopamine élevée, donc tu as beaucoup de matériel pour sécréter et relâcher de l'adrénaline. Parce que le précurseur de l'adrénaline, c'est la dopamine. On suit? Donc, si ta sérotonine est basse, ton facteur anxiété est élevé, donc tu releases l'adrénaline facilement de ta dopamine. Donc, lorsque tu vas arriver vers ta grosse charge, tu as un PR à faire, la manière que tu vas réagir en voyant ta charge, tu vas le voir comme un stress et ce stress-là va avoir tendance à t'écraser. OK? Tu vas freaker devant ta barre. Ton squat à 4 plates, là, il te fait peur. On va virer ça de bord. J'ai une sérotonine élevée, une dopamine hypersensible. Ça veut dire que la dopamine n'est pas obligée d'être élevée, mais elle est sensible. C'est-à-dire que tu ne surutilises pas tes récepteurs de dopamine. En ayant la sérotonine élevée, tu as un facteur confiance plus élevé, moins d'anxiété, donc un release de cortisol plus bas. Lorsque tu vas arriver à ta barre, tu vas te craquer. Tu vas releaser du cortisol comme tout le monde, sauf que ton cortisol va être relâché sur une courte période. Okay? Tu vas voir ta barre, elle va te stresser autant, mais tu vas l'apercevoir différemment. Ça va te challenger au lieu de te stresser. Mm-hmm. On voit la différence. Puis il y a beaucoup d'études sur les athlètes haut niveau qui ont été vus. Par exemple, des sprinteurs, ils évaluaient la perception de la compétition qu'ils avaient à faire. Puis, la différence entre, exemple, un athlète élite qui va réussir, un athlète élite qui va flancher pendant sa compétition, c'est souvent la perception de ce qu'il y a. Donc, ça a bien gros rapport avec les neurotransmetteurs, le ratio dopamine-sérotonine. Donc, pour répondre à ta question, je commence à m'éloigner, mais pour répondre à ta question, dans le fond, c'est que je vais analyser l'état de stress de quelqu'un. Si j'ai quelqu'un qui est très stressé, à ce moment-là, je vais avoir tendance à mettre plus de glucides dans son alimentation. À la limite même, peut-être mettre des glucides pré-entraînement pour justement mitiger le cortisol, mitiger le facteur stress, le mettre dans un état psychologique plus stable durant l'entraînement. Pourquoi? Parce que les glucides, d'un, tu vas relâcher plus de sérotonine quand tu manges des glucides. Pourquoi? Parce que lorsque ton repas est plus copieux en glucides et moins élevé en protéines, tu absorbes plus d'un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Tu connais ça? Le tryptophane, évidemment, est un précurseur de la sérotonine. Donc, à ce moment-là, c'est l'analyse que j'en fais. Bon, cette personne-là est stressée, niveau de cortisol probablement élevé, anxiété. Tu parles à ton client aussi. Tu sais, je veux dire, c'est OK, moi, faire de la grosse charge. La phase d'entraînement qu'on fait en ce moment, ça me stresse. T'sais. Fait que OK, tu sais, j'analyse ça comme ça. Donc, tu switches son alimentation. Puis, c'est pas obligé d'être des changements là, énormes. À titre d'exemple, tu vas pas passer d'un plan à 20% de glucides à 50% de glucides. Ça peut être juste une journée. Ça peut être juste un repas pour avoir un effet à court terme. Parce que les neurotransmetteurs, ça réagit très rapidement. À l'inverse, si j'ai quelqu'un, exemple, qui a besoin de plus de drive, qui a besoin de plus de focus, ben, je vais diminuer ses glucides, je vais mettre plus de protéines. À ce moment-là, pratiquement même pré-workout, je vais dire, OK, on met un minimum de glucides, puis on va te booster en protéines pour aller chercher la tyrosine dans les protéines animales qui va fabriquer la dopamine. Puis évidemment, ben, y a toute une question de cofacteurs là-dedans aussi. À titre d'exemple, je vais ajouter de la B6. Qui est un cofacteur autant pour la dopamine que la sérotonine, qui va permettre de... C'est comme le lien entre les différentes étapes de fabrication. Mm-hmm. Donc, c'est pas juste de dire « je consomme la viande », c'est qu'il y a certaines vitamines, minéraux qui vont être utiles à ça aussi. Mm-hmm. Le magnésium va en être un, entre autres. Le zinc, c'est toutes des vitamines, minéraux qui vont avoir un impact. Mais c'est comme ça que je vais analyser le client. Donc, c'est vraiment en fonction de beaucoup de sa perception qu'il y a à l'entraînement. Mm-hmm. Là, la perception des charges qu'il va avoir. C'est-tu un facteur d'anxiété pour lui? C'est-tu un facteur de motivation, de challenge? Puis ça me permet beaucoup de voir le profil puis où ce qu'il en est psychologiquement aussi. Donc, c'est une des méthodes que j'utilise. J'adapte le menu en fonction de ça.
Puis au niveau, tu parlais après ça... La première étape, c'est ça. Après ça, selon les phases d'entraînement, comment tu fonctionnes à ce niveau-là?
Évidemment, tout dépendait comment que l'entraîneur va dealer avec ses phases, mais nous autres, on travaille beaucoup avec accumulation, intensité, réalisation pour les athlètes. Et à ce moment-là, j'adapte le concept alimentaire en fonction de la phase d'entraînement. Donc, à titre d'exemple, on commence un athlète au niveau accumulation. Vous l'avez vu tantôt en formation de Chris, beaucoup plus de facteurs d'emphase sur l'excentrique. On va travailler avec des temps de suspension plus longs, des méthodes comme les rest pause, ces affaires-là. À ce moment-là, évidemment, le volume d'entraînement a tendance à être plus élevé aussi. Fait que je vais habituellement partir avec plus de calories dans l'entraînement, mais je ne vais pas nécessairement mettre plus de glucides. Okay? Je vais souvent utiliser les glucides un petit peu plus bas, beaucoup plus de protéines, puis essayer de travailler à faire en sorte que on programme le corps à utiliser les graisses. Ça peut être un ratio, là, je vais donner quelque chose comme ça, mettons 50% de protéines, 30% de gras, puis 20% de glucides, tu sais, quelque chose dans le genre. Puis on adapte en fonction du client, évidemment. Mais je vais partir comme ça. Plus élevé en calories, plus bas en glucides. Puis là, évidemment, au niveau accumulation, j'accroche tout le temps ça. Au niveau accumulation, le cardio va être plus élevé, mais du steady. Ça va être du cardio beaucoup. Ça peut être long, mais pas avec une intensité très élevée. On ne veut vraiment pas toucher aux réserves de glycogène. Donc, on veut programmer le corps à utiliser les gras. Et au fur et à mesure que cette phase-là va avancer, tranquillement, on va se diriger vers la phase d'intensité qui, elle, on va diminuer les calories parce que généralement, il va y avoir moins de volume de toute façon dans l'entraînement. C'est beaucoup plus d'intensité. La majorité des gens ont tendance à penser « il faut que je me rajoute des calories, tu sais, j'ai full intensité », mais en réalité, ta dépense calorique n'est pas tant plus élevée. Tu sais, c'est ton système nerveux qui travaille fort. Mais au niveau d'élimination ou d'expansion des calories, il n'y en a pas tant que ça. Donc, je diminue les calories, mais je vais augmenter les glucides. Pourquoi? De un, tu vas être plus sensible à l'insuline vu la première phase que tu vas avoir faite. Tu vas avoir facilement vidé tes réserves de glycogène durant les entraînements, puis tu n'en avais déjà pas un niveau super élevé. Dans la deuxième phase de du programme ou de la progression, à ce moment-là, les glucides sont un petit peu plus élevés. Tu les absorbes mieux, tu es plus sensible à l'insuline. Et comme l'intensité est plus élevée aussi, évidemment, ton système nerveux va avoir besoin de « shut it down » plus souvent. Fait qu'en augmentant les glucides, tu augmentes aussi la production de sérotonine. Donc, évidemment, ça te permet, ton recovery est plus fort, ton recovery est plus rapide. C'est ce qui va te permettre de prolonger ta phase d'intensité jusqu'à des fois 4 semaines. Puis rendu là, lorsqu'on arrive à la phase réalisation, qui est souvent la phase spécifique, si on a un athlète, exemple d'un sport, un sprinteur, un joueur de football, donc on va faire des entraînements qui sont vraiment plus spécifiques à son sport, qui souvent vont avoir une demande en glucides très élevée. Donc à ce moment-là, les glucides sont au maximum. Les protéines, les gras sont beaucoup plus bas. Et le niveau calorique est plus bas aussi. Si on a, exemple, quelqu'un qui a besoin de faire de la composition corporelle, améliorer, diminuer son taux de gras ou quelque chose de même. Par contre, si on a l'inverse, on a un athlète qui a besoin de prendre du poids ou qui a besoin de vraiment, vraiment beaucoup de calories, exemple un athlète d'endurance, quelque chose qui en élimine beaucoup, à ce moment-là, on va augmenter les calories aussi. Là. Donc la phase réalisation va vraiment être en fonction de la phase ou du besoin du client. Mais généralement, c'est le profil que j'utilise. Donc, accumulation avec des calories plus hautes, des glucides plus bas, des protéines très élevées. L'intensification avec des glucides plus élevés diminue graduellement les protéines et les gras. Et à ce moment-là, on diminue les calories un petit peu aussi. Et la phase réalisation qui va être en fonction des besoins, mais avec les glucides plus élevés. Donc, c'est vraiment l'inverse du pattern qu'on voit habituel. Où on part haut en glucides puis qu'on diminue. Je trouvais ça plus logique de le faire dans l'autre sens. Parce qu'en réalité, à la fin, ça devient difficile. Puis c'est là que tu as besoin de plus de réserves énergétiques, tu sais. C'est là que tu as besoin aussi tu veux éviter, le cortisol va être plus élevé aussi à la fin. La conversion en hormones thyroïdiennes est plus difficile. Donc, avec les glucides, tu viens un peu mitiger ou sans stopper complètement, mais tu viens du moins aider à cette dégradation-là hormonale là, qui se fait.
Tu ferais-tu le même concept un peu en préparation de compétition de fitness?
Exactement le même concept, ouais.
Tu
commencerais
plus low carb, steady state cardio, puis après ça, on augmente graduellement. Tu baisses les calories, mais tu augmentes les carbs.
Exact, c'est ça. Souvent, le monde font le saut parce que j'ai des athlètes avec qui j'ai travaillé qui finissaient avec un 60% de glucides là, dans leur alimentation à 3 semaines out. Là, ils sont paniqués, ben raide. Ouais. C'est impossible, genre. Ouais. La règle fondamentale, et je sais que c'est comme deux univers un peu, là, mais la règle fondamentale, c'est que c'est les calories qui te font perdre, te font perdre du poids ou gagner du poids. Ce que je dis toujours, c'est que les calories sont le maître de la direction sur la balance. Donc, si t'en perds, si t'en gagnes. Les macros vont diriger, donc protéines, lipides, glucides, vont diriger le look que tu vas avoir. Les vitamines, minéraux vont décider de comment ça va se passer. Donc, tu vas-tu le faire de manière healthy? Tu vas-tu être en santé? Tu vas-tu le faire en te dégradant la santé totalement? Est-ce que tu vas maximiser la conversion des enzymes, des hormones, tout le kit? Tu sais, c'est ça qui va faire la différence beaucoup. Mais c'est vraiment les trois grands maîtres sur lesquels tu vas baser ton plan alimentaire, ta nutrition, autrement dit. Puis tu veux maximiser ça à chaque fois. Mais c'est ça. Puis un athlète de fitness... Parce que à la base, cette idée-là m'est venue parce que je trouvais ça illogique d'être low carb à la fin. Où il faut que tu sois le plus plein possible, où ton cortisol est le plus élevé. Je me disais, il doit y avoir une méthode pour changer ça. Puis j'avais été au Swiss Symposium à Toronto. J'avais été à une conférence de Luke Lehman, que j'adore d'ailleurs. Et il avait pas exprimé, c'était pas ce concept-là exactement, mais il avait comme lâché un call comme quoi, ça serait beaucoup plus avantageux d'avoir un bodybuilder avec des glucides élevés à l'approche de la compétition, faire le pattern inverse. Là, j'ai trouvé ça bright, j'ai dit, on va l'essayer pour vrai, on va vraiment créer un concept, on va le faire. Puis ce qui est arrivé, je l'ai testé lors du l'avant-dernier training camp qu'on a fait, Leaner, Faster, Stronger avec Tib Army. On a discuté tantôt rapidement, mais c'est surtout là que j'ai vraiment vu que ça fonctionnait à grande échelle. Parce que, tu sais, travailler avec ton client en privé, tu le sais, vous en faites tout. Tu as toujours la proximité avec ton client, tu vois ce qu'il fait. Tu as une évaluation pratiquement soit à chaque semaine, deux semaines, peu importe la fréquence auquel tu vois ton client. Mais tu sais, tu es capable d'ajuster au fur et à mesure. Fait que souvent, c'est plus évident. Mais travailler à grande échelle avec des gens en ligne que tu vois jamais puis que tu parles pas nécessairement souvent, tu lui laisses la recette dans les mains, tu dis « go on », c'est pas nécessairement évident. T'sais. Fait que c'est là que tu vois vraiment si une méthode en général peut s'appliquer si tu as en général 80% de résultats et plus. Ça a vraiment été très, très fonctionnel. Les gens ont bien réagi à ça. Fait que ça m'a prouvé que la méthode fonctionne et que ça a de la logique. T'sais. Puis surtout, les commentaires qui revenaient, c'était que meilleur feeling à la fin de la préparation malgré la fatigue. T'sais. Les problèmes de sommeil sont moins pires. L'énergie en général, la sensation physique aussi. Là. À l'approche d'un show de bodybuilding, 2-3 semaines avant, tu te trouves flat. Tu as l'impression que tu t'es jamais entraîné de ta vie. Puis là, tu veux monter sur le stage avec du monde qui ont l'air tout plein. Puisqu'on le sait, ces médias sociaux ont l'air tout plein. Fait que là, tu stresses. C'est un peu le même principe. Je me disais, OK, l'effet psychologique est pour quelque chose, c'est sûr. Puis ben, c'est un peu l'effet que ça donne. En ayant tes 50-60% de carbs à la fin, ça a un impact énorme sur le physique. Là, tu retiens moins d'eau. Beaucoup, beaucoup de glycogène musculaire, de fluide intramusculaire, ça apparaît sur le physique aussi. C'est ça qu'on veut, là. Puis souvent, ce que je vais faire pour un bodybuilder, à titre d'exemple, si je veux donner un détail supplémentaire, c'est que pour le peaking, ben là, on va ajuster, tu sais. Si on a quelqu'un qui a vraiment besoin d'un peaking, on va, exemple, couper pendant une semaine les glucides ou les mettre beaucoup plus bas, puis les replacer juste avant le show à ce moment-là. Là, on va vraiment aller chercher un changement drastique. Puis dans le meilleur des mondes, on veut même pas faire de méthode de peaking. Ouais, ça serait l'idéal. Si t'as un athlète que tu regardes, tu te dis ok, lui, il peut genre slipper dans le show sans problème, ben go on,
C'est ça que cette méthode-là t'as utilisée? T'as compétitionné l'année passée.
L'année passée, au mois de mai. Ouais, Mimi Capes, classique à Montréal, ouais, exact.
C'est-tu une méthode semblable?
C'est une méthode similaire, pas exactement pareil, parce que j'étais coaché par le défunt Matt Porter, qui est décédé récemment, malheureusement. Donc, lui, sa stratégie était très high carbs, mais c'est là que l'idée m'est venue quand même, parce que moi, ça me faisait paniquer. on était à la fin, là, puis tu sais, je mangeais encore comme 300-350 grammes de carbs par jour. J'étais comme « wow, man! » Puis même, j'avais été, trois semaines avant, j'avais été hospitalisé parce que, bref, grosse histoire, mais j'avais comme de quoi te bloquer au niveau du canal qui élimine les fluides dans le rein. C'est de quoi qu'il y ait de naissance, là. Mais bref, ça faisait longtemps que fallait que ça soit fait. Puis là, ben, j'avais comme mal, tu sais. J'avais été pour être sûr, puis il m'avait comme dit, OK, tu sais, il n'y a pas de problème pour l'instant, mais après ton show, il faut t'opérer, tu sais. Mais j'ai quand même été hospitalisé trois jours, à rien faire pendant tout. Ouais. J'étais lourdé de carbs, tu sais. J'étais comme, wow, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, ça m'a prouvé que finalement, les carbs, c'est pas le démon, là, tu sais. Ça fonctionne bien. J'ai eu vraiment ma meilleure condition à vie, puis, ça m'a convaincu d'utiliser les carbs, puis de me pencher un peu plus vers ça, puis dire, OK, il y a de quoi faire avec ça. Puis troisième chose qui m'a convaincu aussi, puis j'en parlais avec Chris, on s'en est parlé souvent, tu sais, au Québec, on utilise beaucoup l'approche low carb. C'est majoritaire chez la plupart des coachs. Ça, c'est dû, c'est bien correct, mais tu sais, l'enseignement Poliquin a beaucoup amené ça, le mouvement low carb. Mais ailleurs dans le monde, dans le bodybuilding, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont low carb dans la vie. Là. La majorité des bodybuilders, c'est du high carb, tout le kit. Fait que je me dis, il y a de quoi que j'ai pas catché. Il faut que je fouille là-dedans. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis, t'sais, j'ai travaillé avec des coachs comme Shelby Starnes, Matt Porter, Mike Israetel. Puis c'est tout du monde qui met assez de carbs dans leur alimentation. Fait qu'à un moment donné, je dis OK, faut que je m'y mette. Là. Ouais, on y va. on arrête le low carb, on essaye ça. Puis mes concepts viennent tous de là maintenant. Mm-hmm. Puis les carbs sont vraiment la base. C'est un peu comme le. C'est comme l'arme secrète, je trouve, les carbs. Ah. Si tu sais comment les gauger comme il faut, là, c'est vraiment là que tu vas aller chercher l'amélioration physique, autant en fat loss qu'en prise de masse, un photo shoot, une compétition. C'est vraiment là que ça fait la différence. Tu sais comment les utiliser.
Ah, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de coachs que je parle que l'optimisation de la nutrition par rapport au neurotyping ou aux phases d'entraînement, c'est quelque chose qui sort de plus en plus parce que justement, on se rend compte que on peut aller un peu plus geeky dans ces affaires-là. Je sais pas si tu connais Cassie Manson de N1 Education. J'ai fait sa certification à N1. Justement, lui, dans le fond, il explique tout au niveau des mitochondries, qu'est-ce qui se passe mettons, quand tu fais un tel type d'entraînement. Puis là, ben, comment périodiser la nutrition avec ça. Puis je trouve ça vraiment intéressant.
Ouais, le gars est bright. Moi, je l'aime bien. C'est un smart guy. Là, puis, c'est ça, en fait. C'est que la nutrition est plus juste comme un nombre de calories, puis un nombre de glucides, puis de protéines. Ça suit vraiment ton entraînement. Si tu suis ce que ton entraînement fait, c'est là que tu vas te rendre compte que la nutrition a un impact pas mal plus fort que juste de quoi de bien steady, que tu dis « je coupe des calories ».
Ouais, parce que tu l'as fait, je l'ai fait. Là, on, à un moment donné, à un certain point que ça marche plus.
Non, c'est ça. Là, tu te dis « je comprends pas, je coupe encore les calories, puis il se passe rien ». C'est un impact hormonal et physiologique ça change. Là, les suppléments jouent là-dedans aussi. Des suppléments qui vont avoir des impacts. Tu parlais du neurotyping, ben la nutrition sur le neurotyping, c'est aussi l'adaptation des suppléments en fonction de ça. On utilise, un exemple, la tyrosine ou le tryptophane. On utilise toutes les vitamines, les minéraux qui vont optimiser ces neurotransmetteurs-là, qui vont donner un feeling différent pour exactement le même entraînement puis la même nutrition.
Fait que tes protocoles de suppléments, c'est la même chose. Tu optimises pour les neurotransmetteurs puis après ça pour les phases d'entraînement.
C'est ça, exactement. Donc, à titre d'exemple, on va reprendre notre bloc d'accumulation, intensification puis réalisation. Pour un bloc d'accumulation, ce que je vais vouloir faire, c'est tout dépendant de l'état psychologique de la personne. Mais généralement, si c'est quelqu'un qui a un facteur anxieux élevé, ben là, je vais travailler plus avec les tryptophanes, le 5-HTP. On va travailler à diminuer le cortisol au maximum. Donc, ça pourrait être ajouter de la glycine. Si c'est la sérotonine le problème, si c'est au niveau du sommeil, si c'est le GABA qui est plus problématique, on va travailler avec, ça peut être de la mélisse, on va travailler avec du magnolia bark, on va travailler des affaires des fois qu'on ne voit pas nécessairement souvent ici. Ça pourrait être juste des tisanes de camomille, des affaires de même, qui vont utiliser le GABA. Si j'ai quelqu'un qui, au contraire, a besoin plus de travailler sa drive, d'augmenter sa motivation, ben là, je vais travailler avec la tyrosine, je vais travailler avec voyons, ça pourrait même être des suppléments comme le Macuna, qui va être fort en dopa, qui est le précurseur de la dopamine aussi.
C'était-tu, ce supplément-là, moi, ça me overstimule, genre que ouais. Shake, là.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est probablement que ça monte trop, autrement dit. Ouais, parce que la dopamine, ça. Là, c'est un couteau à deux tranchants. Ouais. Si c'est trop, si elle est trop élevée, là, ça te met out, là.
Ouais, c'est ça qui est arrivé.
Tu vas avoir l'adrénaline dans le piton, puis t'es comme juste trop motivé, ouais, genre, là. C'est juste pas bon, là, tu sais. Puis, avant un workout... Il y en a beaucoup qui vont consommer des pré-workouts, mettons. Puis écoute, j'en vois des fois là, 300-400 grammes de caféine, tu sais, puis let's go. Mais tu sais, être focus, c'est juste être au bon niveau. C'est pas être infiniment focus, là, tu sais, parce que quand tu l'es trop, le tunnel vision, là, c'est comme plus bon, là. Là, tu sais, t'arrives à ta barre, tu réfléchis pas deux secondes. Finalement, tu fais ta rep, mais tu sais, t'as fait tout croche, t'as aucun... tu veux juste lever, tu sais. Il y a comme un entre-deux. Fait que c'est un peu le même principe avec la dopamine. Tu veux juste que la personne soit au bon niveau, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'évidemment, si tu l'as expérimenté, tu prends du dopa, ben, ça te stimule trop. C'est juste pas bon. Fait que c'est pas tout le monde qui va bien réagir à ça. Puis le protocole de supplément, évidemment, c'est de trouver aussi l'élément puis le dosage idéal. Mm-hmm. Pour d'exemple, la tyrosine, en général, les gens réagissent bien, mais ça dépend du dosage que tu prends. Moi, en général, je vais conseiller environ 12 mg par livre de poids. Ça donne de quoi de pas pire, tu sais, la plupart des gens réagissent bien. Mais c'est sûr que si tu pognes le pot, puis que tu regardes le scoop, puis le scoop c'est 10 grammes, tu dis j'essaie ça de même, tu sais, tu commences, puis tu dis ah, « je filais pas bien, tu sais, puis tu t'inquiètes. » C'est ça, là. C'est vraiment, il faut que ça soit personnalisé, parce que c'est des suppléments qui ont un impact neurologique fort. Pas juste, tu sais, la caféine, à la limite, dans 4-5 heures, c'est fini, tu sais. T'as filé un mauvais coton, mais quand tu prends des suppléments au niveau des neurotransmetteurs, ça peut te casser à long terme, là, tu sais. Fait comme tu files vraiment pas bien et tu sais pas pourquoi. Là, fait que, donc, c'est ça, il faut quand même être prudent avec ça. Mais généralement, tu n'as pas besoin de tant de doses que ça au niveau des acides aminés qui ont un impact sur les neurotransmetteurs, genre la tyrosine, le tryptophane, ces affaires-là. Mettons, le 5-HTP est toujours surdosé. Je trouve que les gens en mettent beaucoup trop. T'sais, je vois des capsules de 5-HTP à 250 mg. En général, moi, je travaille avec des clients et on a du résultat à 25-50 mg. Je pense que autant dans l'entraînement, dans la nutrition, dans les suppléments, c'est toujours de trouver le meilleur effet en utilisant le minimum.
Ouais, exact.
Tu sais, quand tu t'entraînes, tu ne veux pas faire 15-7. Tu vas en faire un ou deux qui te donnent le maximum de stimulation. Puis c'est là, une fois que ça c'est fait, tu te retires. Parce que sinon, tu ne fais tu te fais qu'éloigner ta récupération. Tu es plus deep dans les... La fatigue, le cortisol augmente. Nutrition, ben, tu sais, moi, je vois toujours fonctionner avec le maximum de calories en ayant une perte de poids stable. Là, souvent, je me dis, ouais, mais si je coupe encore plus, je vais perdre encore plus. Ouais, mais tu vas pogner le mur plus vite.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, le but, c'est de prendre. Prends-toi à temps. Si tu mettons une préparation, prends-toi à temps. Tu prends le temps qu'il faut, tu sais. Puis les suppléments, c'est pareil. T'sais. Moi, je veux utiliser le minimum de suppléments possible, mais toujours utiliser le dosage. Juste efficace. T'as l'effet, fine, ça n'a rien à prendre plus. Un des protocoles pré-workout que je fais souvent, moi, c'est 75 mg de caféine avec des fois 2 à 3 grammes de tyrosine maximum, une petite B6, puis merci, bonsoir. Tu pars avec ça. Ça m'allume bien raide, mais ça m'allume juste correct. Ça va être parfait. Pas besoin de 300 mg. À 300 mg de caféine, là, t'es explosé, ça fait longtemps. Ça. Puis si ça te fait plus effet, ben c'est justement, là, c'est que t'as largement dépassé. T'es devenu insensible à ça. Puis les suppléments, c'est une partie où les gens, justement, vont devenir insensibles parce que les pré-workouts, justement, vont tellement stimuler ton adrénaline que ton récepteur d'adrénaline... Faut dire de quoi avant? Parce que les gens disent, ça cause la fatigue surrénale. Ouais. C'est pas le cas. C'est pas de la fatigue surrénale. En fait, c'est ton récepteur d'adrénaline qui est insensible. Puis les neurotransmetteurs, j'aurais dû le dire en premier, là, mais les neurotransmetteurs, c'est ça. C'est uniquement l'effet que tu vas ressentir, c'est uniquement en fonction de la sensibilité de ton récepteur. Donc, si tu stimules ta dopamine tout le temps, pré-workout, tu as parlé de la dopa, tantôt ça te stimule trop, je suis certain que tu aurais repris de la dopa le lendemain puis tu aurais moins mal filé. Tu aurais comme fait, pas autant qu'hier. C'est comme la caféine. La caféine, t'en prends tous les jours, à un moment donné, t'en sens plus. T'en prends une fois de temps en temps, c'est comme, wow, tu marches ses murs, tu sais. C'est, avec tous les neurotransmetteurs, c'est pareil. Tu vas ressentir l'effet de l'élévation du neurotransmetteur si ton récepteur est sensible. Et pour ça, il ne faut pas que tu utilises, il ne faut pas que tu stimules trop tout le temps. Donc souvent, exemple, un protocole pré-workout pour stimuler la dopamine, ben je vais le mettre, mettons, 3 fois par semaine. Avec un système d'entraînement comme celui-là que Christian vous a enseigné aujourd'hui, où, exemple, on travaille l'excentrique dans une journée, l'isométrie dans une autre, une concentrique dans une autre, ben ça va être les 3 journées sur lesquelles je vais utiliser ces protocoles-là pour stimuler la dopamine, vu que ça va être les entraînements qui vont être travailler plus le corps en entier, qui vont demander un effort supplémentaire. Les autres entraînements, si on travaille plus de l'isolation, des systèmes énergétiques, ces choses-là, ben là, je vais utiliser des protocoles de suppléments qui vont viser d'autres besoins. Je te donne un exemple. Tu as une 4e journée, on travaille du bodybuilding, de l'isolation, de la pompe. Ben là, je vais te faire un protocole de supplément qui va maximiser l'afflux sanguin puis les fluides dans le muscle. Donc, ça peut être du glycérol, la citrulline, du beetroot, des affaires de même, tu sais, où que là, à ce moment-là, on va vraiment stimuler l'afflux sanguin dans ton muscle, puisque ton entraînement, c'est ça que ça va donner, tu sais. C'est ça que tu recherches.
T'irais-tu avec un peu de trucs qui vont stimuler l'acétylcholine aussi pour augmenter la capacité de contraction?
Oui. L'acétylcholine, il peut être ajouté dans différents... Moi, je l'ajoute beaucoup avec les protocoles où on va utiliser le système nerveux beaucoup. Okay. Moi, j'ai la choline, à titre d'exemple. Il y en a qui utilisent des MAE aussi. À ce moment-là, parce que l'acétylcholine, évidemment, va avoir un impact, oui, sur la contraction musculaire. Par contre, il faut faire attention parce que si tu augmentes ton acétylcholine et ta dopamine en même temps, ça peut se contrebalancer. Parce que si ton acétylcholine est élevé, tu stimules moins d'adrénaline. Fait que ça peut être bon pour quelqu'un qui en stimule trop, mais quelqu'un qui en stimule pas assez, c'est moins bon à ce moment-là. Fait que ça, c'est vraiment comme c'est la carte secrète, ou c'est comme le joker, genre, tu peux le mettre, mais faut pas que tu le mettes tout le temps, là, ça dépend, faut que tu analyses ton client à ce moment-là. Mais généralement, une petite dose de choline va avoir un impact positif. Puis sur... Puis si, exemple, tu as une autre journée, tu travailles plus les systèmes énergétiques, ben là, à ce moment-là, on va vraiment... Il n'y a pas nécessairement de protocole particulier, mais ça peut être d'ajouter, mettons, des coenzymes Q10, des affaires normales, tu sais, des trucs qui vont augmenter la qualité cardiovasculaire, ces affaires-là. Les jours off, ben, je pourrais promouvoir un protocole de supplément pour la récupération avec du ashwagandha, des adaptogènes, bref. À ce moment-là, ça va être... c'est vraiment comme ça, que c'est vraiment en fonction de la journée que je vais adapter les protocoles de supplément. Au lieu d'avoir un supplément que tu vas prendre toujours, à tous les jours... Où finalement, ben, l'effet se perd au fur et à mesure parce que tu stimules toujours le même récepteur avec ça. T'sais. À moins de quelqu'un qui est vraiment dans un état, là, t'as un client, exemple, qui est en état sympathique, là, t'sais, son système nerveux est comme à côté tout le temps puis il décroche pas. Ça va arriver chez les athlètes qui compétitionnent puis qui se préparent à une compétition pendant un certain temps puis qui ont comme le rythme de vie est à côté. T'sais. Des athlètes de powerlifting, j'en vois aussi, le système nerveux roule juste trop. Moi, ça m'est arrivé à ma dernière compétition aussi. Là, comme plus capable de décrocher. T'es comme toujours high, mais tu dors pas. Là, ouais, ça veut juste rien savoir. Fait que là, à ce moment-là, je vais utiliser du gros dosage adaptogène pour essayer de mettre le système nerveux à off. Donc, ce que tu veux, c'est passer du système sympathique à parasympathique. Donc, il va y avoir évidemment différents vitamines et minéraux qu'on va promouvoir dans l'alimentation, des techniques de respiration. Ça peut être juste prescrire des power naps dans la journée. Faire vraiment en sorte que le système nerveux décroche totalement. J'ai un séminaire dans une semaine et demie à peu près, justement, à Montréal. Puis c'est vraiment ça de ça que je parle. Là. Je donne tous les protocoles. C'est au Centre XPN de Jeff Godreau.
OK. Ouais. J'ai pas vu passer. C'est-tu ouvert à tous?
Il y a encore des places, là, mais on va en parler. Il reste encore des places. Il faut contacter Expertise 360 à ce moment-là.
Okay.
Alex Lemay s'occupe de ça. Puis, okay. Mais c'est ça. C'est vraiment de ça que je parle beaucoup, entre autres. Là. Donc, c'est vraiment optimiser le passage du sympathique à parasympathique. Puis ça pourrait être l'inverse. Je vais avoir des protocoles supplémentaires aussi pour quelqu'un. Exemple, si tu es un athlète d'endurance, exemple un marathonien, un cycliste, je vois même ça chez les coureurs automobiles. On n'en parle pas souvent, mais les coureurs automobiles, là, c'est de l'endurance en salle. Là. Et souvent, eux autres vont faire du surentraînement parasympathique. Donc, c'est l'autre branche.
Okay.
C'est que tu es trop en mode endurance longtemps. Donc, les symptômes sont inversés. Au lieu d'avoir un rythme cardiaque plus élevé au repos, tu as un rythme cardiaque trop bas, même en activité. Okay. Et à ce moment-là, ben, les protocoles de supplément, ça va être l'inverse, ça va être pour stimuler ton système sympathique. Même les entraînements vont changer. On va avoir des entraînements à ce moment-là qui vont être genre des neural charge workout, là, avec de l'explosion beaucoup, puis tout le kit pour stimuler le sympathique, puis juste équilibrer. Donc, c'est un peu ça, moi, que je vis. C'est toujours, tu sais, trouver le centre là-dedans, tu sais. Fait que c'est vraiment ce que je travaille beaucoup. Puis avec les suppléments, bien évidemment, tu peux aller chercher un effet court terme rapide. Ce que tu veux, c'est toujours, évidemment, l'avoir par l'alimentation, en gérant bien ta diète, mais en gérant bien le volume d'entraînement que tu fais, la récupération que tu le quittes. Mais des fois, quand tu as des athlètes qui compétitionnent, ils vont faire le même. Malheureusement, tu n'as pas le choix de partir à la guerre, tu sais. Fait que les suppléments sont vraiment utilisés en fonction de ça, tu sais.
Ouais, souvent, le monde, tu sais, en coachant du monde, tu te rends compte que il y a mieux prendre des suppléments que de lâcher le cellulaire 30 minutes avant d'aller se coucher. Fait que...
Regarde, ça, c'est tellement une affaire qui est problématique. Puis honnêtement, moi, je l'ai expérimenté beaucoup. Avant, je dormais avec mon cellulaire. Tu sais, c'était mon cadran, direct à côté de moi. Puis à cette heure, puis pas en tout. Parce que tu veux pas, tu te couches le soir, puis là, ben, ton cellulaire est à côté de toi. Tu te lèves le matin, ton cellulaire est là, tu le regardes. Puis là, si... Si tu regardes peut-être juste l'heure. Mais si ça donne exemple, je te donne un exemple d'avoir un client qui t'écrit, whatever, là, ça te fait tout de suite penser à job. Puis tu sais, il est peut-être 4 heures du matin, genre, là, t'es plus dans le sommeil pendant tout. Fait que tu vas avoir le moins possible, là, les zones et tout, puis tout ça.
Mais moi, un truc que je donne, c'est d'enlever toutes les notifications sur ton cell, tu sais, à mes clients. Tu sais, juste déjà là.
Oui, absolument.
Moi, ça fait comme 2 ans que j'ai fait ça, puis le nombre de stress que ça m'a diminué d'une journée.
J'en ai aucun doute.
C'est fou, là. Tu sais, des fois, on s'en rend pas compte, mais on est tellement overstimulé toute la journée par 56 000 affaires que là, on se couche le soir, on est comme, pourquoi je peux aller dormir?
Je lisais des études là-dessus, justement, parce que quand on a monté ça, le système là, de neurotyping, mais au niveau de la nutrition. Je lisais beaucoup sur le système dopaminergique. Puis, tu sais, les cas de dépression qui sont de plus en plus fréquents aujourd'hui, à des âges qui n'ont vraiment pas rapport. Là. Puis, c'est entre autres beaucoup dû à l'utilisation des médias sociaux puis du cellulaire, qui t'es tout le temps en stimulation. Parce qu'il ne faut pas oublier que la dopamine, en réalité, là, c'est ce qui fait qu'on est des individus de société. À la base, la dopamine, ça te sert à avoir un certain behavior social, d'aller voir des gens, de créer une communauté, de te reproduire. C'est ce qui fait en sorte qu'on est là aujourd'hui. Puis, je lisais, je pense que c'est Simon Sinek qui disait ça. C'était vraiment intéressant. Il disait qu'un être humain a une capacité sociale d'à peu près 140 individus dans sa vie. Avec les médias sociaux, on s'entend-tu? Je suis sûr que tu pètes le 5000 amis. Là, bon, tu ne le parles pas tous, mais on s'entend-tu que le nombre d'interactions sociales que tu as, ils n'ont plus rapport? Parce qu'avant, je veux dire, on est 3 dans la pièce présentement. Avant, on est juste 3. Là, maintenant, on n'est plus 3. Là. On peut être genre 15. Là, puis ça, par le cellulaire, tout le monde peut se parler, par les médias sociaux, tout. Fait que le système dopaminergique est bien trop exploité. Puis, bien évidemment, la dopamine devient basse. Donc, les cas de dépression, majoritairement, et là, ce que je donne, ce n'est pas un avis de médecin. C'est juste simplement basé sur des études. Les cas de dépression sont beaucoup traités en travaillant sur la sérotonine, alors qu'il faut travailler sur la dopamine, généralement. Donc, faites pas de move avant de parler à votre médecin, là. Mais simplement, c'est ça. C'est qu'on est beaucoup trop stimulé. Puis, on parle des médias sociaux, mais c'est plein d'autres affaires. Je me demandais, moi, pourquoi quand je rentrais dans un centre d'achat, 10 minutes après, je viens totalement fatigué, puis tout ce que je veux, c'est manger, puis m'asseoir. En lisant, j'ai fait des découvertes, les magasins te surstimulent totalement, parce que tu as des lumières partout, tu as de l'advertising, du marketing, des publicités, tu as plein de gens autour de toi, du bruit partout. Puis moi, je suis comme hyper réactif à ça. Puis je me dis, c'est vraiment une surutilisation. Donc, je rentre dans le centre d'achat, je suis hyper énervé. Puis 10 minutes après, je suis hyper down. T'sais. Ma blonde, souvent, elle est comme, elle peut magasiner. Là, elle, c'est shop till you drop. Là. Genre, on meurt à la fin de la journée. Puis moi, 10 minutes après, je traîne là, avec ma main. Genre, je suis comme, s'il te plaît, faut manger. Mais c'est justement, là, je veux manger parce que je surutilise ma sérotonine, parce que ma dopamine est à terre. Puis mon stress ne fait qu'augmenter. Fait que là, je surutilise mes neurotransmetteurs, je viens totalement down après. Donc, c'est con, mais la vie sociale en général, là, aujourd'hui, nous stimule, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est pour ça que c'est important d'avoir des moments où tu fais rien. Tu sais, où tu es juste comme alone, tu n'as pas de stimulation externe, whatever. Puis encore plus, si tu es quelqu'un qui s'entraîne fort, ou que tu compétitionnes à des niveaux élites, tu as vraiment besoin de ces moments-là pour te, te replacer. Dans le séminaire que je donne prochainement, je parle aussi de des méthodes là, qui ont fait preuve. Là, juste exemple, les caissons de flottaison, ces affaires-là, je ne sais pas si vous connaissez ça. Là, mais bref, qui ont vraiment un impact. Là, vous avez des clients qui font ça. Je vous dis, un athlète en préparation, là, prescrivez ça à peu près une fois ou deux semaines. Là, vous allez voir la différence dans la
récupération. Ça, c'est comme un gros bassin que tu flottes dedans.
Puis en fait, c'est un bassin où, autrement dit, tu n'as aucune stimulation. Il n'y a pas d'odeur. L'eau est traitée pour pas qu'il y ait d'odeur. Tu as de l'eau qui est à peu près là, juste à une hauteur pour que tu flottes dedans, puis c'est bourré de sel d'Epsom. Fait qu'évidemment, ça va te faire flotter. Donc, tu n'as pas de contact avec rien de solide. Donc, le toucher n'est pas stimulé. Donc, tu as l'odorat qui n'est pas stimulé, le toucher n'est pas stimulé, il fait noir, totalement noir. Donc, la vue n'est pas stimulée, il n'y a aucun son. Donc, ton ouïe n'est pas stimulée non plus. Donc, c'est vraiment fait en fonction pour diminuer toutes les sensations du corps. Et là, tu te retrouves dans un état neutre que tu ne peux pas avoir, même quand tu te couches chez vous. Là, c'est, fait que c'est pour ça qu'ils se sont rendus compte que ça allait vraiment chercher. La récupération était vraiment forte chez les athlètes élites parce que tu passais comme en quelques minutes dans le système parasympathique. Là, fait que c'est une des méthodes vraiment fortes.
Tu veux t'essayer?
Je ne l'ai pas essayé encore, mais je m'en vais essayer ça dans pas long, c'est sûr.
Ça doit être freak.
Moi, je m'en suis fait parler beaucoup, j'ai lu beaucoup là-dessus. J'ai parlé avec des gens justement pour savoir c'était quoi exactement, puis tout le kit. J'ai lu des études là-dessus, c'est assez convaincant. Mais là, justement, là, j'ai dit, il faut que je l'aille. J'avais des clients, justement, qui compétitionnaient, pas nécessairement en bodybuilding, mais dans d'autres sports, de haut niveau. Puis c'est ça, eux autres, on a commencé à l'utiliser. Puis j'ai dit, on va le tester, voir. Puis ça fonctionne, là, les effets qu'eux autres m'ont dit. Là, j'attends de pouvoir le tester moi-même pour le vivre.
Y en a-tu beaucoup au Québec?
Il y en a. Ben, à Montréal, je sais pas. Je sais qu'à Québec, il y en a deux.
OK.
Fait que c'est à voir, là. Mais s'il y en a à Québec, il y en a à Montréal.
Je pense que avec cette conversation-là, on peut vraiment se rendre compte que ta nutrition, ta supplémentation, tout ce que tu vas faire, ça va affecter comment tu te sens. T'sais. Puis souvent, totalement. Du monde, ils sont comme je manque d'énergie ou ils ont plein de symptômes qui. Si tu fais affaire à quelqu'un qui connaît ses trucs, il devrait te faire sentir mieux en pas long si tu suis ce qu'il te dit, bien sûr.
Ben, c'est sûr qu'en partant, c'est de suivre ce que le coach dit. Mais en général, c'est que les gens sont aussi addicts à la stimulation. Et combien de clients que tu entraînes qui, quand ça commence à moins bien aller, ils s'entraînent juste plus. Je cote pas, je vais juste couper plus les carbs. C'est toujours, on s'en va toujours finalement en empirant notre situation, alors que souvent, c'est juste de mettre le pied sur le frein. Puis en réalité, quand tu stimules bien, que ce soit par la nutrition ou par l'entraînement, quand tu as le juste niveau, tu vas avoir l'évolution qu'il faut. Tu peux pas évoluer plus rapidement que ce que ton corps est capable de faire parce que sinon, tu ne fais que raccourcir la mèche puis à un moment donné, ne plus. Fait que je pense que quelqu'un qui veut bien balancer son évolution, sa progression au fur et à mesure des années, c'est d'avoir des outils de récupération efficaces puis de minimiser le volume d'entraînement, mais juste d'y aller pour être efficace au maximum. Même chose que la nutrition, avoir le maximum de calories possible pour toujours travailler en déficit. Fait que c'est vraiment ça. Puis je généralement, parce qu'on par expérience avec les clients, quand tu établis des normes de récupération en partant, la progression se fait tellement plus rapidement. Au lieu de te ramasser avec un client que tu es obligé comme de ramasser à petite cuillère tout le temps. Et je pense que les coachs auraient vraiment intérêt à optimiser les méthodes de récupération pour leurs clients. C'est le gros de mon prochain séminaire, c'est ça, surtout.
Fait que prochain séminaire, ça va être Jeff Gaudreau, mais peut-être quand il va sortir, il va être passé. T'as-tu d'autres séminaires qui s'en viennent?
Présentement, non, pas au calendrier, du moins pas dans l'année qui s'en vient. Fait que, mais éventuellement, c'est toujours facile à retrouver de toute façon.
Ouais, c'est ça, on gardera pour peut-être te faire venir à mon centre.
Ça va me faire plaisir. En plus, tu vas avoir plein de machines super cool.
C'est ça.
Tu vas faire un training en même temps.
C'est où que les gens peuvent te suivre s'ils veulent en apprendre un peu plus sur soit se faire coacher par toi, le neurotyping, toutes ces infos-là.
Oui, évidemment, c'est sûr que sur Facebook, on est toujours joignable à ce moment-là. Puis sur tibarmy.com, à ce moment-là, tous les renseignements pour nous rejoindre sont là aussi. Ils ont accès aussi au blog, tous les articles qu'on sort, beaucoup d'informations gratuites qui peuvent être très, très utiles. Donc, Facebook, thebarmy.com, c'est
vraiment... T'as ce personnel, toi, que tu mets
j'ai pas de site personnel, non, parce que, anyway, Facebook, j'avais déjà eu le plan de le faire. Finalement, tout le monde s'en allait sur Tbarmy, pareil. Fait que ouais, c'est comme, ça. Je dis, regarde, ça passe par là.
Fait que c'est vraiment sur Tbarmy qu'on peut...
Tbarmy, ouais, vous pouvez m'en rejoindre. Puis à ce moment-là, si vous écrivez à info... à commercial@tbarmy.com, vous avez une question pour moi, ça va s'adresser, ça va s'en aller à moi anyway, fait que,
cool,
pas de problème.
Super, un gros merci d'avoir été là.
Hey, merci à vous autres, c'est super cool.
Merci à tous d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes, allez vous abonner sur la page YouTube, laisser un commentaire et un like si vous avez aimé ça. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.